7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Bon, on a le rapport annuel de la Caisse de dépôt et de placement. Il y a une série d'infos à tirer de ça, notamment la performance de la Caisse, les investissements, puis bien sûr la rémunération des dirigeants.
D'un côté, la performance, on l'avait déjà pour la dernière année, on l'avait déjà parlé, mais là, ils nous disent, écoutez, le rendement sur 10 ans annualisé est de 9,2%. Alors, on se félicite, hein, on se tape dans les mains, on se donne des tapes sur les épaules, puis on se dit, on a été bon. Mais évidemment, Paul, si tu regardes les marchés depuis 2009, ça tombe-tu bien? Michael Sabia est béni des dieux. T'sais, vraiment, il arrive après la crise. Et on est rendu dans le haut de la bourse qu'on n'a jamais atteint. Donc, c'est sûr que sur 10 ans, s'il s'était planté, je me serais dit comment il a fait, qu'il me donne des trucs pour se saboter, parce que n'importe qui a acheté l'indice pendant ce temps-là a fait une bonne performance. Évidemment, l'actif a monté en valeur totale. Là, on est passé d'un actif de 120 milliards en 2009 à 309 milliards. On dit sur 10 ans, c'est incroyable, mais en même temps, en 2009, c'était juste après la crise, ça remontait par la suite. Et là, on parle de rémunération. Évidemment, la presse souligne que Michael Sabia, c'est pas mieux payé, puis c'est un gars à Londres, puis tout ça. J'avais envie de faire un parallèle avec Punta Cana ce matin.
Punta Cana?
Ouais, ou le Bangladesh, je t'explique. Quand je m'achète un T-shirt Gildan, puis il est pas fabriqué au Québec, pourquoi il est pas fabriqué au Québec? Mais c'est parce que ça coûte moins cher le fabriquer ailleurs dans un pays sous-développé. Parfait, on le fait fabriquer ailleurs, le Québécois moyen profite, paye son chandail 15$, alors que ça vaut beaucoup plus cher si on le faisait fabriquer ici. Même chose à Punta Cana ou à Cuba. Quand tu t'en vas à Cuba, tu t'en vas en voyage, tu dis « Hey, moi quand je m'en vais en voyage, j'ai de l'air d'un riche, je me paye un tout inclus pour 1000$ par semaine alors que la valeur ici serait beaucoup plus chère. » Donc, tu profites de l'arbitrage géographique. Alors, quand la Caisse de dépôt se cherche un dirigeant ailleurs dans le monde, à Londres, où ça coûte plus cher, c'est exactement le contraire. T'es le gars de Punta Cana qui veut se payer le gars du Québec, tu comprends? Donc là, on a le gars du Québec qui veut se payer le gars de Londres. Mais le gars de Londres, lui, il paye sa vie en livres sterling, là, tu sais. Il est dans un marché de là-bas. Et tu le dis, je veux te débaucher. Je veux avoir ton réseau de placement privé. Je veux avoir ton expertise. Puis je veux te mettre tout ça dans le système de rémunération d'une caisse québécoise. Embarques-tu? Non. OK, on va te donner plus. Non. Encore plus? Non. Encore plus, non. Va te donner une prime pendant 4 ans là, qui va te permettre de payer une allocation. Okay. C'est comme ça que ça marche. Non, mais c'est ça, c'est une négociation, tu comprends? Alors, quand on dit, ouais, mais là, ici, il y a une allocation à gauche qui est pas prévue selon la convention des salaires, pourquoi pas divulguer de la même façon? Parce qu'on a des règles ici. Tu peux dire aux Québécois, hey, t'es-tu fier de travailler pour la caisse? Ça fait partie de ton CV. Mais quand tu vas débaucher un gars à Londres, qui est dans son club privé, puis que tu lui dis, hey, toi, viens faire partie de la gang, faut que tu y donnes du cash. Autre point, là, tout le monde, faut qu'on se trouve quelqu'un pour remplacer Michael Sabia.
Il s'en va, dans 2 ans?
Peut-être. Mmh. Donc, s'il s'en va après le REM, qui va prendre sa place? Donc, si tu veux débaucher quelqu'un qui a le potentiel de prendre sa place, ben, il faut le payer. C'est toujours ça la question. Et on dit, oui, mais 3 des plus gros dirigeants en dessous de Michael Sabia sont à l'extérieur du Québec. Ben oui, ça tombe bien. Hein? La Caisse a des investissements un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu normal que sur 309 milliards d'actifs, si j'en ai 36% au Canada, que j'ai des dirigeants qui soient ailleurs qu'au Québec. C'est ça une caisse qui est investie mondialement.
Maintenant, pour les parents à l'écoute, si vous avez un ado et que l'ado veut devenir un influenceur, le terme tendance, écoutez bien Pierre-Yves.
Oui, parce que, écoute, je voulais te parler d'économie. Première des choses, si votre ado vient vous voir puis vous dites « Hey, je veux devenir influenceur », on va lui parler d'un petit cours de finance. Donc, c'est possible, mais c'est un star system parallèle. Que vous soyez sur YouTube, Instagram, c'est un nouveau star system. Mais c'est un peu la même réalité que dans les années 80. Les gens voulaient être mannequins, les gens voulaient être acteurs. Maintenant, ils veulent être influenceurs. Mais tout comme ces marchés-là, il y avait à l'époque des barrières à l'entrée. Si tu es une vedette rock, il fallait que quelqu'un t'en disque. Aujourd'hui, tu peux vendre ta musique directement sur Internet, ça fait en sorte que tu as moins de revenus. C'est la même chose pour la vedette de l'influence. Le marketing d'influence existe, mais les influenceurs sont des outils utilisés par le marketing d'influence. Donc, tout le monde peut être influenceur, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. La seule barrière à l'entrée, c'est d'avoir un nombre de suiveurs ou d'abonnés grands. Et c'est ça qu'il faut développer. Donc, le deuxième point, c'est de l'offre et la demande. Donc, plus il va y avoir de jeunes qui vont vouloir être influenceurs, ce qui est le cas, et comme l'offre marketing augmente et qu'il y a une limite éventuellement, les influenceurs, techniquement, vont être de moins en moins rémunérés par tête. les grands, les plus vendeurs, ceux qui ont beaucoup d'abonnés, vont être très vendeurs, comme les Jenner, par exemple. Mais les autres vont se partager des grenades. Pourquoi? Parce que si tu as 10 000 abonnés, puis tu as 15 000 abonnés, puis le voisin a 15 000 abonnés aussi, puis qu'il y a une relative influence équivalente, on va t'offrir moins. Troisième point intéressant, la stabilité des revenus. Évidemment, c'est pas stable, mais quand tu veux t'acheter une maison, la banque regarde quelque chose, c'est un travailleur autonome, t'as-tu 2 ans de revenus stables à la même place? Donc, comme influenceur, ça va être très difficile de te financer si tu n'es que ça. Crée une valeur ailleurs et une stabilité ailleurs parce que tu vas être comme un travailleur autonome.
Créer
dont
des
la
produits
valeur.
Dérivés.
Ben oui, ben peut-être même pas des produits dérivés, mais tu sais, exemple, il y a des influenceurs.
Ailleurs.
Un bon exemple, Marie-Pierre Morin. C'est une actrice, c'est une animatrice, c'est plein de choses. Et une influenceur. Donc, quand elle fait une association avec Rockland, elle profite de tout ce marketing d'influence-là tout en ayant un revenu stable. Donc, le monde d'aujourd'hui n'est pas encore adapté aux influenceurs. Ni la fiscalité, ni les banques. Et il y a eu récemment, il y a une fille qui a perdu son compte Instagram aux États-Unis parce qu'elle s'est faite attaquer par des gens et a eu des plaintes. Et donc, elle a perdu sa valeur du jour au lendemain. Et l'autre question, c'est quelle sera ta stratégie de différenciation? Si t'es influenceur, être jeune et beau, ça marche pour te faire liker tes photos pendant un certain temps. Mais qu'est-ce que ton jeune propose de différent des autres? Quel contenu? Donc, c'est toujours ça. La question, c'est fiscalement, c'est pas déterminé. Économiquement, c'est pas déterminé. Et côté stabilité d'emploi, c'est peut-être bon de garder un pied à l'école.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Il y a bien des parents qui vont apprécier la dernière phrase. Monsieur Brière sera là bientôt, 7h23.